Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jean-Baptiste Moutet, le cofondateur du Média Vivant, un média marseillais pas comme les autres, où les journalistes racontent l'actualité sur scène autour d'un verre, sans filtre ni censure. Avec Jean-Baptiste, on parle des convergences entre l'art de la scène et du journalisme, des coulisses du média vivant et du futur de l'information. Bonne écoute! Salut Jean-Baptiste!
Bonjour!
Bienvenue dans The Storyline!
Ben merci beaucoup, je suis content d'être là.
J'ai vraiment hâte de parler de Média Vivant, qui est un média pas comme les autres. Mais justement, avant de passer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a amené au journalisme et puis à créer justement Média Vivant en nous expliquant un petit peu qu'est-ce que c'est ?
Bah, le journalisme, moi j'y suis arrivé, en fait c'est toujours assez difficile de dire comment on est arrivé au journalisme. Moi j'avais envie de témoigner, en fait c'était là-dedans que je prenais du plaisir. Bon, c'est quelque chose de personnel, je ne sais pas si c'est important, mais quand j'avais 7 ans, j'avais fait un voyage à Tahiti qui n'était pas prévu. Le plaisir de raconter ce voyage et de ce qu'on y faisait, je pense que de fil en aiguille, ça m'a amené au journalisme. Bon, enfin bon, voilà, c'est, je ne sais pas
c'est
si c'est
mal,
très
c'est
important.
Original. Non, mais très bien.
Ensuite, le média vivant, c'est une question qu'on se pose tout au long de sa carrière, c'est comment intéresser les gens à l'actualité, à l'information, comment informer. Moi, c'est mes amis d'enfance que je cherchais à intéresser à l'information, mais ils ne se sentaient pas forcément légitimes à ouvrir un journal comme Le Monde, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas pour eux, voilà. Même s'ils pourraient tout à fait comprendre ce qui est écrit dans Le Monde, ils ont cette appréhension avant d'acheter ce quotidien.
Oui, parce qu'il est présenté comme un petit peu élitiste.
Ben, il est présenté de manière sérieuse, déjà, que ce soit dans les choix de la typographie, que ce soit dans la manière d'éditer, de la mise en page, finalement. Mmh. Le Monde, le message qu'il veut faire passer, c'est on est sérieux et on va vous informer de manière claire et de manière,
formelle.
Formelle, voilà. Et c'est peut-être ce sérieux qui, en ce qui concerne mes amis d'enfance, peut un peu les refroidir ou les éloigner. Il y a aussi le fait, tout simplement, que ce soit aussi payant. Et je pense que c'est un gage d'indépendance. Mais ça peut, quand on compte notre argent et quand on doit débourser un abonnement à un journal ou à un site d'actualité, et n'est pas forcément la priorité de certaines personnes.
Parce que tu parles de tes amis, mais en fait, qui sont tes amis ? Peut-être que ça aidera à comprendre un petit peu le concept derrière tout ça.
Non, mais c'est mes amis d'enfance, des gens que je connais depuis le collège, qui ont grandi avec moi dans un village de la Drôme.
D'accord.
Je parle de cet exemple-là, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes. Mmh. On a moins d'appréhension à acheter la Provence, le Dauphiné Libéré ou même le Progrès que le Monde ou prendre un abonnement à Mediapart. Parce qu'il y a aussi
La proximité
et le canard local, on l'achète aussi pour lire des nouvelles des gens que l'on connaît.
Oui, c'est vrai.
Le Monde, ça peut paraître lointain pour certaines personnes.
D'accord.
Ce qui traverse tout journaliste, même le journaliste qui travaillait au Monde, il serait pas du tout d'accord avec moi. Et je pense que lui, sa mission, c'est justement d'amener à lire ces informations qui paraissent dans Le Monde. Mmh. Mais il est bien plus facile pour moi à mes amis de leur dire on va passer une soirée ensemble, on va partager un verre et il y aura une représentation lors de cette soirée, plutôt que de lui dire d'aller acheter le journal. C'est plus dans ses habitudes, c'est plus dans son quotidien. Il y a un aspect ludique qui peut le convaincre de franchir le pas.
Et donc, ça donne naissance à Média Vivant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en détail de ce qu'est et de ce que propose Média Vivant ?
Alors, Média Vivant, c'est une enquête sur scène. C'est le journaliste qui raconte son article sur scène. Et on invite aussi les témoins, les intervenants de l'article, à s'exprimer face au public. L'idée, c'est que derrière, on comprenne bien d'où vient l'information, qui parle finalement. Et ça permet, ces témoins qui montent sur scène permet aussi à vraiment plonger dans d'autres quotidiens et à vraiment, il y a une sorte, d'empathie qui se crée entre le public et les témoins et on fait plus d'efforts C'est plus facile de s'imaginer d'autres mondes, d'autres problématiques d'autres quotidiens.
Dans les chaussures de la personne qui est sur scène, du coup, et qui raconte son histoire.
Tout à fait.
De manière directe.
Puis ça se fait dans un lieu ouvert aussi. Là, c'est toujours la logique du monde et de Mediapart dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mes amis d'enfance, ils vont pas aller au théâtre, par exemple. C'est quelque chose qu'ils peuvent appréhender. Par contre, si ça se déroule dans un lieu ouvert, que ce soit un espace de coworking un peu adapté ou
un bar
ou même une salle des fêtes dans des lieux qu'il connaît, je pense qu'on casse une barrière aussi.
Ouais, je vois. Ok. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de, pour un peu donner forme à tout ça, peut-être d'enquêtes que vous avez menées récemment, qu'on puisse se projeter un petit peu?
On a fait un premier article vivant sur la guerre en Ukraine et spécifiquement sur Mariupol, où là, c'est des habitants qui ont raconté le bombardement de Mariupol et aussi leur fuite en France et ailleurs. On a fait une autre enquête sur scène qui était sur les proches des victimes des règlements de compte. C'est-à-dire que dans le journal, on parle... à Marseille, puis ailleurs, on vit avec ces meurtres, mais souvent, on ne parle pas des familles endeuillées qui restent là, qui sont complètement déchirées, peut-être même pour des générations. Et voilà, cette enquête, c'était apprendre à découvrir aussi à quoi elles sont confrontées et les aides qui leur sont proposées ou pas, si ces aides aussi sont suffisantes. C'était pour comprendre, là encore, le quotidien de ces gens et comment ils vivent une fois que leur vie est bouleversée par ce drame. Et la dernière enquête sur scène, c'était la pollution dans le golfe de Fos, avec des habitants qui se révoltent et qui tentent de mettre l'État et les entreprises face à leurs responsabilités, parce que dans le golfe de Fos, donc à côté de l'étang de Berre, il y a des pollutions importantes, des études scientifiques qui en témoignent. De nombreuses personnes développent des maladies comme des cancers, de l'asthme, et elles sont aussi prisonnières de ce lieu, parce que c'est là où elles travaillent, c'est là où elles ont aussi un attachement. Donc voilà, c'est raconter aussi, c'est raconter le quotidien de ces habitants et comment ils se sont soit organisés en association, soit menés un combat judiciaire.
Ok, c'est très, très puissant. Alors déjà, peut-être première petite question technique. Outre les articles sur scène, est-ce que vous publiez des articles en ligne sur un média en ligne ?
Alors, on a un site qui s'appelle mediavivant.fr où on publie les vidéos des représentations en trois parties. Et ces vidéos sont étayées par des encadrés pour aller un petit peu plus loin que ce qui a été dit lors de la représentation. Voilà.
Ok. Génial. Et sur les représentations elles-mêmes, vous avez en général combien de personnes qui vont venir ? C'est peut-être variable d'une enquête à une autre, mais est-ce que c'est un ordre ?
Voilà, une centaine de personnes pour le moment. La dernière fois, on était complet, on a dû refuser des gens, donc la question de la salle va aussi se poser.
Ouais.
Nous, notre objectif, c'est d'avoir aussi notre propre lieu qui soit à la fois nos bureaux et une salle de représentation. Ça va se faire dans un temps. Voilà, pour le moment, on n'a pas... effectivement, il y aura des représentations où il y aura plus de personnes. Là, la soirée de lancement, on a dépassé les 200 personnes parce que ça s'est fait dans une plus grande salle et puis parce que c'était notre soirée de lancement, on voulait marquer le coup. À terme, si on est à chaque fois entre 100 et 150 personnes, c'est déjà bien. Et pourquoi pas faire des fois des éditions un peu spéciales où on accueille plus de monde.
Je vois, trop bien. Vous le faites à quelle fréquence, ce type de représentation ? Enfin, je dis représentation, mais ce type d'événement ?
Oui, mais représentation, ça me va. Ce qui me plaît pas, c'est spectacle, parce qu'on joue pas, en fait. Mais, oui. Donc, du coup, représentation, ça marche. Puis, il faut bien trouver des synonymes à enquête sur scène.
En effet.
Pour le moment, on est à une représentation par mois. Et on espère, au cours de l'année prochaine, arriver à deux représentations par mois sur Marseille. Voilà.
Génial. Et oui, du coup, donc, je note que tu n'aimes pas le mot spectacle et je comprends pourquoi. Mais je trouve que cette approche de parler de scène, ça a vraiment un côté théâtral. Et finalement, c'est mettre en scène les journalistes, les témoins, parfois les victimes. Pourquoi est-ce que tu as choisi de mélanger l'art de la scène et celui du journalisme ?
Alors, ça s'est imposé. Moi, j'ai jamais fait de théâtre. Je suis pas spécialement quelqu'un qui va lire les pages culture des journaux. En fait, ce choix s'est un peu imposé à moi. Pour moi, c'était pour moi la solution justement de. C'était un outil nécessaire pour pouvoir expliquer ton article, pour pouvoir faire intervenir tes sources, qu'on les voit, qu'on les entende. Donc la scène, en fait, elle s'est un peu imposée finalement pour répondre à nos objectifs de mener une information au plus grand nombre. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un. Il a fallu élaborer ces articles vivants, ces enquêtes sur scène. Donc, on travaille avec des comédiennes, Aude Ollier qui est à Paris et Nancy Robert qui est sur Marseille, qui ont la lourde tâche de coacher, d'entraîner les journalistes qui vont monter sur scène.
Ouais.
Et elles ont leur regard de comédienne, et alors que nous, on arrive avec notre regard de journaliste. Donc, il y a une discussion qui se met en place et aussi une construction de l'article ensemble. Après, nous, on n'a pas la prétention d'être des comédiens. Être comédien, c'est un métier, c'est pas le nôtre. Donc voilà. Bon, de plus en plus, avec l'expérience, on apprend quelques trucs, mais on ne joue pas l'article, on le raconte.
Oui,
je joue sur les mots depuis le début.
Oui, c'est pas faux. On est sur un épisode très high level de métaphores et d'analogies. Mais en effet, vous le jouez pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que vous intégrez des codes qui viennent d'un autre univers, mais qui ont toute leur place dans le journalisme et qui sont des codes de narration, de définition, j'imagine, d'une storyline, justement, d'une ligne, d'un arc narratif, des moments d'émotion, des moments de repos, enfin, j'imagine.
La scène influence de toute façon la façon dont on écrit l'article, c'est-à-dire que, par exemple, on va interpeller le public en lui disant imaginez ou vous pouvez observer, chose qu'on ne fait pas dans un article écrit.
Certes.
Il y a aussi la façon de la raconter, c'est-à-dire qu'il faut timbrer sa voix, essayer de la faire porter. Donc, il y a une certaine locution un petit peu différente d'une conférence aussi qui se met en place. Après, c'est plein de... Enfin, il y a quand même un minimum de mise en scène, c'est-à-dire à tel moment, je dois me lever, à tel moment, je dois présenter l'écran, à tel moment, je suis là sur scène et pas ailleurs. Mais ça, on l'a découvert petit à petit, c'est-à-dire qu'on s'était pas projeté devant, on s'était pas projeté, on n'avait pas forcément prévu cela. C'est le travail avec les comédiennes qui a fait que ça a pris cette tournure. Moi, personnellement, par exemple, le premier article vivant, je suis arrivé face à la comédienne en lui disant « mais il n'y a pas de problème, ça fait 2 mois que je travaille sur cette enquête, je vais pouvoir improviser durant 45 minutes ». Elle m'a dit « bon, ben bah, d'accord, et tente, bah, écoute, essaye, puis tu vas voir que c'est pas possible ». Et effectivement, au bout de 5 minutes, eh ben, il y a les mots qui sont écorchés, il y a énormément de « e », il y a des redondances dans les mots, et finalement, tu perds ton public. Donc, il a fallu se rendre à l'évidence, l'article, il faut l'apprendre par cœur.
Oui.
Ou essayer, moins, de l'apprendre par cœur.
Sacré travail.
Okay. Oui, c'est un sacré travail. Après, on a nos notes quand même à portée de main si on a un trou.
Oui.
Le public est assez bienveillant si on a un trou aussi, ils comprennent. Mais l'objectif, avant une enquête sur scène, c'est de l'apprendre. Et du coup, ça a encore d'autres conséquences. Quand on s'aperçoit qu'il faut l'apprendre, ben, on raccourcit un peu le texte, on le met en bouche et on essaye qu'il soit plus oral qu'écrit. Et finalement, il y a quelque chose qui se crée qui n'existe pas ailleurs.
Ok. Génial. C'est intéressant parce que ça me fait vraiment penser à une autre invitée que j'ai reçue il y a quelques mois dans le podcast qui s'appelle Charlie Perrault et qui est chef du service startup aux Échos. Alors elle ne fait pas de scène par rapport à ses articles. En revanche, on a parlé à un moment de notre entretien du rôle du journaliste qui est amené à changer un peu dans le futur des médias, en tout cas dans le futur du traitement et de la restitution de l'information dans les nouveaux modèles économiques des médias, et on en parlera tous les deux, mais je trouve ça vraiment assez fascinant de voir à quel point le journaliste veut et doit, je ne sais pas quelle est la frontière entre les deux, mais se réinventer et du coup ajouter des nouvelles cordes à son arc. Avec Charlie, on avait beaucoup parlé du fait qu'aujourd'hui les journalistes, on attend un peu de leur part qu'ils soient incarnés, qu'ils publient sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, qu'ils fassent des lives YouTube et tout, alors qu'auparavant c'était plus la publication qui était mise en valeur, maintenant c'est le journaliste. Et finalement, chez Média Vivant, on va encore un peu plus loin. On apprend aux journalistes à jouer, à narrer ses enquêtes, et donc on le transforme presque en journaliste comédien, quoi.
Oui, tout à fait. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre invité. Je pense qu'il y a eu trop longtemps des barrières, des cloisons, où le journalisme devait être ça et pas autre chose. On devait construire un article de telle façon et pas autrement. Je pense que le début, enfin ça remonte assez loin maintenant, mais Internet a un peu bouleversé tout cela quand même, parce que c'est la à ce moment-là, les journalistes, c'est un moment parmi d'autres quand le journaliste a dû se réinventer. Les timides, ceux qui n'ont pas voulu franchir ce pas en se disant qu'Internet, ça allait pas marcher, parce que moi-même, quand j'ai commencé le journalisme, je suis pas si vieux que ça, mais on entendait quand même cette petite musique, Internet, c'est une mode, tout le monde s'y met, et ça va planter. Le passage, maintenant, c'est le contraire. Quand un journal dit « je suis que un journal et je suis pas un site », c'est quelque chose qui revendique comme une exception. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, en fait, les journalistes ont compris qu'il fallait continuer à s'adapter, puis tout va vite, en fait, parce qu'avec Internet, il y a eu les réseaux sociaux, avec des messages plus courts, une forme d'incarnation, comme tu l'as dit, qui est demandée avec... Bon, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça, quand même, mais... Mais voilà, c'est de toute façon, on doit tous chercher à mener l'information où elle va pas, et c'est notre devoir en tant que journaliste. Bon, devoir, c'est un bien grand mot, mais c'est notre objectif de toute façon. Donc oui, il faut s'adapter. Moi, je pense que la scène peut être une solution, mais c'est une solution parmi d'autres. C'est pas l'avenir du journalisme ne se fera pas sur la scène.
C'est une piste intéressante que vous êtes peu à explorer aujourd'hui, mais en tout cas, moi, je la trouve assez assez fascinante. Et je me demandais justement par rapport à ça, comment est-ce que tu as réussi à créer un modèle économique stable, enfin en tout cas on l'espère pour vous, pour le média, comment ça marche aujourd'hui tout ce qui est rémunération ou en tout cas financement de médias vivants?
Alors nous là on est toujours dans une phase de lancement, donc cette phase de lancement, le budget prévisionnel est toujours en construction, tout n'est pas acté. Enfin, tout est acté, tout est prévu, tout n'est pas encore mis en place. Voilà. Okay. C'est-à-dire que nous, on part du principe que l'on doit être gratuit pour être ouvert au plus grand nombre, que ce soit les entrées des représentations qui sont payantes, mais à un prix libre. Là, c'est une manière pour nous de dire que on va assister à quelque chose qui n'est pas totalement gratuit, mais je mets ce que je veux. Le site, on peut nous soutenir par des dons. Nous, notre objectif, c'est de dépendre de ça, de ces deux ressources-là principalement, c'est-à-dire les dons, voilà. Notre principale ressource qui nous permet de conserver notre indépendance tout en étant accessible à tout le monde.
Okay.
Voilà, on va lancer une campagne de financement justement pour nous permettre de nous professionnaliser, pour passer à une étape supérieure. Et c'est là que cette dynamique, c'est à partir de ce moment-là que cette dynamique va vraiment s'enclencher.
Oui, mais du coup, elle va se déployer comment cette dynamique, cette levée?
À partir de la campagne de dons, on va lancer justement une habitude à donner aux médias vivants. On va essayer de fidéliser nos donateurs. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est d'abord de nous faire connaître, de faire parler aussi de notre newsletter et d'essayer d'avoir le plus d'inscrits possible. Et dans un second temps, le don va intervenir.
Très bien. Donc, bah oui, justement, si on reprend un petit peu aujourd'hui ce qu'est Média Vivant, vos canaux, etc., est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de la création et du fonctionnement de Média Vivant ? Donc, comment est-ce que vous avez défini la ligne éditoriale, recruté les journalistes, lancé le média, et puis après, sur quel format on vous retrouve aujourd'hui ?
Alors, là, pour l'instant, le Média Vivant, en ce moment, c'est unique, c'est 60 adhérents, mais uniquement des bénévoles, à part les journalistes qui interviennent lors des articles vivants, qui sont des pigistes que l'on rémunère, ouais, comme l'ingénieur son, comme la comédienne, comme voilà. Et là, on va normalement embaucher deux journalistes, dont moi, et un responsable éducation aux médias, parce qu'on mène aussi des ateliers d'éducation populaire aux médias. Je tiens un peu au mot populaire, c'est parce qu'on donne les clés aux participants pour faire leur propre article vivant et pour devenir aussi autonome pour publier des informations vérifiées. Voilà, aujourd'hui, voilà, moi je travaille beaucoup avec Alix de Crécy qui est en charge du développement de la stratégie. Il y a moi de l'autre côté qui travaille surtout sur l'éditorial, l'administratif. Et puis derrière, il y a toute une association où il y a des gens qui se mobilisent pour organiser la représentation, pour participer aussi. Enfin, notre association, elle est ouverte à tout le monde. Si vous voulez adhérer à l'association, c'est possible. Il y a des membres qu'on appelle amis, par exemple, et ainsi participer à la vie démocratique aussi du média vivant pour donner son opinion, essayer de faire avancer Média Vivant sur des idées qui est partagée par tout le monde.
Ok, alors je vais avoir deux questions, une sur justement cette communauté entre guillemets, mais la première, peut-être revenir rapidement sur la ligne éditoriale, vu que c'est toi qui en étais responsable. Comment tu l'as définie ? À quoi elle ressemble aujourd'hui ?
Bon, la ligne éditoriale, c'est toujours...
complexe.
Non, mais pour nous, en fait, c'est que la focale, elle doit partir du bas. Voilà, tous les articles... Quel que soit le format, c'est que l'on part des gens qui font l'information, qui font l'actualité, en fait, qui vivent les événements. C'est-à-dire que, par exemple, le Golfe de Fos, pour le Golfe de Fos et la pollution dans le Golfe de Fos, on aurait pu faire toute une enquête pour prouver qu'il y avait une pollution en citant les enquêtes, etc. On a bien entendu parlé de ces enquêtes, mais la focale est partie des habitants. Ce qu'on a raconté, c'est le quotidien des habitants du Golfe de Fos et eux, comment ils vivent la pollution. Et voilà, et eux aussi nous racontent que dans l'école où sont scolarisés leurs enfants, dans une même classe, il y a 10 gamins qui sont asthmatiques. Quand ils vont à l'hôpital à Marseille pour faire une chimiothérapie, autour d'eux, il y a des voisins et des gens qui habitent autour d'eux. Donc eux aussi, ils prouvent cette pollution-là en racontant des morceaux de vie, en fait. Donc la ligne éditoriale se situe là, c'est par un angle, un prisme un parti pris, comment dire, un angle de vue
l'actualité, les informations à travers les yeux des gens qui la vivent, comme tu disais.
Tout à fait, exactement.
Très clair. Ok, génial. Et donc du coup, tu parlais de cette soixantaine d'adhérents bénévoles, mais qui sont ces gens et comment ils contribuent au Média Vivant?
Eh ben alors il y a des profils très divers en fait. Il y a des journalistes, des professeurs, des gens qu'on a rencontrés lors de nos premières enquêtes et qui ont voulu aussi adhérer. Chacun apporte sa compétence et agit là où il a envie d'agir. C'est-à-dire que par exemple là, il y avait Samuel qui voulait à tout prix mettre en œuvre un débat assez horizontal et ouvert après les échanges. Voilà, c'est lui qui a pensé cet échange, c'est lui qui l'a mené. Voilà, après c'est plein de petites choses à faire, c'est-à-dire distribuer des tracts parce qu'on on passe beaucoup par les réseaux sociaux pour communiquer, mais on veut être aussi accessible aux gens qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, donc ça passe aussi par le tractage, une communication physique. Donc ouais. Là aussi, il y a d'autres bénévoles qui aident. Et après, c'est aussi dans la prise de décision, c'est-à-dire que les assemblées générales, elles sont ouvertes à ce qu'on appelle les membres amis, et il y a des membres actifs et des membres amis, et les membres amis ont un droit de vote consultatif aussi lors des AG.
Oui, donc en fait, c'est un peu une
là,
communauté...
Là, c'est un peu plus technique, mais...
Oui, mais c'est intéressant. Ça montre que vous vivez votre ligne éditoriale et que vous êtes vraiment dans l'horizontalité.
Oui, ben voilà. Nous, enfin, c'est toujours cette idée d'être ouvert le plus possible. Donc, ça se retrouve dans notre façon de raconter l'actualité, mais ça se retrouve aussi dans notre structure juridique et dans l'organisation de cette association. Voilà, on ne doit pas être des donneurs de leçons. On doit s'appliquer à nous aussi ce que l'on défend.
Comment tu l'as fait vivre au quotidien, cette communauté ?
Alors, pour le moment, on passe beaucoup par les réseaux sociaux, par les mails, et il y a de toute façon ce rendez-vous maintenant mensuel où les membres de l'association se retrouvent et discutent aussi lors des enquêtes sur scène. C'est aussi un moment d'échange entre nous. Voilà, c'est principalement par ces biais-là.
Ok, d'accord. Mais du coup, tu essayes de les tenir informés et d'animer ça de manière plus fréquente qu'une fois par mois sur la rencontre en physique.
Oui, bah il y a énormément d'échanges par mail. Après, c'est de manière assez informelle, on va dire. Et c'est des mails, c'est des newsletters, c'est des répondre aux interpellations des uns, des autres. Voilà. Après, la 80% des adhérents sont sur Marseille, donc on se retrouve assez facilement et rapidement.
D'accord. Et justement, je trouvais ça intéressant de questionner en fait ton choix d'un ancrage à Marseille versus ton objectif d'informer un maximum de personnes. Pourquoi est-ce que tu as fait le pari de cet ancrage vraiment local, territorial, qui est un petit peu différent des tendances de beaucoup de médias qui se lancent et qui sont vraiment 100% digitaux par nature pour justement pouvoir adresser beaucoup plus de lecteurs ?
Ben nous, on habite à Marseille, donc après, on habite à Marseille, donc on ne voulait pas quitter Marseille pour une autre ville. Ensuite, on raconte une actualité normalement qui a portée nationale, c'est-à-dire que la pollution dans le golfe de Fos, ça raconte aussi le quotidien de d'autres villes en France. Les proches des victimes des règlements de compte, pareil. Et bon, l'Ukraine, c'est un sujet international. Donc ça s'est fait là-dessus assez logiquement. Nous, l'idée, c'est... L'enquête sur scène, c'est quelque chose qui se joue physiquement. Je pense qu'il était important de créer aussi des habitudes. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans une ville et puis aller après dans une autre, comme tout média, en fait, un rendez-vous mensuel. Je pense qu'on a, moi, je me vois comme un mensuel, en fait, même si ça se joue sur scène. Voilà, donc de là est parti aussi l'ancrage sur Marseille pour cela, quoi. Pour créer une habitude, pour créer une fidélité avec le média vivant.
Bien sûr, je te pose la question, mais je trouve que c'est une approche hyper intéressante parce que on a tendance à dire dans l'univers du marketing, qui n'est pas si loin que ça du journalisme, enfin un petit peu quand même, que c'est toujours intéressant de commencer par une niche et de fidéliser cette niche pour ensuite élargir son champ d'action et son périmètre d'action. Donc je suis d'accord avec toi, je pense que l'ancrage local et territorial peut être assez positif en termes de rétention et de fidélisation des lecteurs.
C'est tout à fait notre processus. C'est-à-dire que nous, on veut bien être établi à Marseille avant de s'élargir progressivement. Il faut d'abord créer une habitude à Marseille pour ensuite aller par cercle concentrique, on va dire, et gagner la France entière. Après, il y a deux choses. C'est que l'enquête sur scène s'adresse à un public marseillais ou des Bouches-du-Rhône, des gens qui vont se déplacer pour voir la représentation. Ensuite, le site, il a vocation à pouvoir être vu par tout le monde en France et par tous les francophones.
Mmh. Oui, bah oui, très clair. Et on parlait de justement une autre action en local que vous menez, c'est l'éducation populaire aux médias dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous menez ces actions et comment ça se matérialise ?
Alors, on mène des ateliers auprès de deux lycées, le lycée Saint-Exupéry, donc le lycée des quartiers nord à Marseille, et le lycée Saint-Éloi à Aix. Et on a un projet d'atelier qui devrait démarrer après les vacances de février, dans des centres de détention avec l'association Urban Prod. L'idée, c'est de suivre, ces jeunes pour qu'ils mènent leur propre enquête, qu'ils choisissent leur propre sujet et qu'ils amènent à construire leur propre enquête sur scène. Voilà. Donc, il y a une troisième phase, par exemple, à la fin, et la comédienne va aussi intervenir pour les aider à mettre en scène l'article.
L'idée étant de permettre à des gens qui n'ont pas forcément un accès facile à l'information et aux médias de s'approprier cette
C'est tout
démarche.
À fait. C'est d'abord de les amener à être eux-mêmes capables de diffuser une information vérifiée. Mmh. Et puis après, nous, notre objectif, c'est toujours d'aller vers les publics peu ou pas informés. C'est notre public cible. Ça se construit de plein de manières différentes, mais c'est un processus assez long. Et donc, il faut aller à la rencontre de ces personnes-là. Et c'est par le biais de l'éducation populaire aux médias que l'on y va.
Ok, trop bien. Et justement, pour rebondir sur les jeunes notamment, qui ont un rapport assez particulier à l'information, qui la consomment principalement sur les réseaux sociaux, sous des formats qui sont différents de ceux auxquels on a été habitués jusqu'à présent. Est-ce que tu penses que le digital, les réseaux sociaux, c'est plutôt une chance de pouvoir diffuser l'information au plus grand nombre ou une menace? Je sais que tout n'est pas noir ou blanc, mais je serais curieuse d'avoir ta vision de la chose.
Nous, on ne va pas cracher sur les réseaux sociaux. On passe par les réseaux sociaux pour se faire connaître. Après, tout dépend de, je dis des généralités, hein. C'est pas très original ce que je veux dire, mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, en fait, comment on l'utilise. Après, moi, je pense qu'il faut donner aussi les outils pour décrypter les réseaux sociaux, pour décrypter, en fait, ce qu'est une information, en fait. C'est-à-dire savoir qui parle, quelle est la source, comprendre si cette information est recoupée, vérifier si cette information est recoupée ou non. En fait, il faut enclencher des sortes de réflexes. Parce que le problème n'est pas tant l'existence des réseaux sociaux, c'est l'utilisation qui en est faite, parce que c'est aussi un objet de communication et de propagande aussi.
C'est vrai.
De propagande d'idées politiques ou d'idées ou commerciales aussi. Et le moyen est très simple, c'est de savoir qui parle et savoir qui on suit et pourquoi. Et ça, c'est des choses dont moi, je trouve, les jeunes avec qui je suis en contact ont conscience. Peut-être plus que moi à leur époque, mais je pense qu'ils ont un peu plus de recul là-dessus. Après, ça n'empêche pas les dérives et voilà. Mais c'est aussi là, par exemple, quand on mène l'enquête sur scène, il y a toute une phase d'enquête. Les contacts qu'ils ont trouvés, les gens qui sont allés interroger, ils les ont trouvés aussi via les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi un usage pour chercher une information, pour chercher quelque chose de sûr et de solide. On peut aussi passer par les réseaux sociaux.
D'accord. Une belle conclusion. Et de toute façon, Média Vivant est aussi là pour incarner justement et remettre du local et du présentiel pour contrebalancer ce côté-là justement dont tu parlais, ce risque d'éparpillement sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Média Vivant passe par les réseaux sociaux. Et effectivement, comme tu le disais, le lien que l'on a avec le public, il est aussi physique. Et même pour parler de nous, on en parle aussi. Ça, c'est un peu différent. J'ai pas vu beaucoup de médias qui faisaient du tractage dans la rue pour qu'on achète leur journal. Voilà, il y a une sorte de lien physique qui s'établit avec notre public.
Une belle conclusion. Et je vous souhaite beaucoup de succès.
Merci beaucoup.
Et puis, bonne journée.
Merci à toi. À très bientôt.
Salut,
au revoir.
Alors, l'épisode vous a donné des idées ? De mon côté, je trouve fascinante l'approche de Jean-Baptiste et des journalistes du Média Vivant. Leur démarche locale, inclusive et populaire, donne à leurs médias un caractère unique et une belle raison d'être. Mais au-delà de ça, c'est aussi une stratégie habile d'ancrage et de fidélisation d'un lectorat bien particulier, sur un territoire spécifique, qui permet aux médias vivants de s'appuyer sur une communauté fidèle et engagée de lecteurs, avant d'entamer la deuxième étape de son développement. Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous dis à dans 2 semaines dans The Storyline.